Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne manquera pas à la tradition en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant un certain temps déjà. Et bien évidemment, notre générique est une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards, musique d'Henry Mancini, le tout en 1962, une petite merveille qui s'appelait Breakfast at Tiffany's in English, et Diamant sur canapé pour ceux qui cherchent dans les rayons vidéo en français. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission, bien brève en l'espèce, à la vie courte mais ô combien douloureuse et ô combien passionnée de Pier Paolo Pasolini, certainement l'un des plus grand cinéaste italien des années 70 et surtout 80, avec une carrière marquée par nombre de scandales et nombre de malheurs, puisque pour une fois, on va commencer par la fin et en espèce par la mort de Pier Paolo Pasolini, quelque part aux environs d'Ostie, le 2 novembre 1975. Une mort violente comme sa ville avait été, puisque l'homme fut assassiné dans des circonstances qui, près de 40 ans plus tard, restent encore troubles et sujettes à caution. Et sujettes à scandale et à polémique, comme toute sa vie, ou presque l'a été. Une vie commencée le 5 mars 1922, et là encore placée sous le signe une certaine malédiction, puisque son père était un officier fasciste et que du coup il lui vouera une haine solide et définitive, contrairement à sa mère qui restera jusqu'à la fin et bien certainement l'une de ses figures les plus inspirantes, et une vie, une enfance, une jeunesse marquée aussi par la mort de son frère quelque part à la fin de la Seconde Guerre mondiale, exécuté dans le cadre des combats pour la libération de l'Italie. Bref, une vie marquée par le malheur dès sa jeunesse et qui fera que dès l'âge de 20 ans, eh bien, l'homme commencera. Alors évidemment, c'est une explication un peu facile à transcender souffrances et douleurs. Tout d'abord dans la poésie, puisque Pasolini, en tout cas en Italie, est presque plus considéré comme un poète que comme un réalisateur de cinéma. Et ensuite avec des romans comme Les Ragazzi ou Une vie violente, qui sera ce dernier adapté au cinéma avant de commencer, et donc de commencer au cinéma en étant scénariste de quelques grands réalisateurs des années 50, puisqu'il le fut notamment de Mario Soldati, un réalisateur assez peu connu de ce côté-ci des Alpes, pour La fille du fleuve. Il le fut de Fellini pour Les Nuits de Cabiria, cela dit, une collaboration à vrai dire qui laisse perplexe entre deux cinéastes si différents l'un de l'autre. Et il le fut aussi de Mauro Bolognini, puisque Pasolini, à ma connaissance, collabora à 4 reprises avec ce grand réalisateur italien, notamment pour Les Jeunes Maris, Les Garçons. Ça s'est passé à Rome, et pour un film dont nous allons écouter un petit extrait de la bande originale, un film tourné en 1960 et qui réunissait dans les rôles principaux, excusez du peu, Marcello, l'immortel Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, ai-je besoin d'en dire plus? C'est Pierre Brasseur, un film qui s'appelait Le Bel Antonio et qui est une satire assez bien venue de la vie en Sicile, où le Bel Antonio, incarné donc par Marcello Mastroianni, est l'homme dont la virilité est la plus exacerbée, mais qui se révèle finalement, eh bien pour tout le dire, un piètre amant. Du coup, s'ensuit une délicieuse et aigre comédie, un scénario donc consigné par Pasolini, une réalisation de Mauro Bolognini et une musique, et après il n'y aura plus de i, de Piero Piccioni dans 24 notes secondes. Un court extrait de la bande originale du Bel Antonio, un film de Mauro Bolognini tourné en 1960 et co-scénarisé, pardonnez-moi, par Pier Paolo Pasolini, qui va passer à la réalisation en 1961 avec un premier film intitulé Acatone. Acatone, ça veut dire mendiant. Et en fait, Acatone, c'est l'histoire d'un faubourg misérable de Rome que Pasolini connaît bien puisqu'il fut, avant de devenir poète, romancier, réalisateur et bien autre chose, il fut instituteur dans ces quartiers-là, un film qui donc scrute au plus près la partie invisible de la réussite italienne des années 60 avec Franco Citti dans le rôle principal, un film qui marque tout de suite la naissance d'un cinéaste, donc un cinéaste qui était déjà scénariste auparavant mais qui n'avait pas une connaissance très très approfondie des techniques de mise en scène et qui du coup, comme le dit Bernardo Bertolucci, qui fut assistant avant de devenir bien sûr réalisateur, qui fut assistant sur ce film, eh bien Bertolucci disait que c'était, dans la mesure où Pasolini était nouveau au cinéma, qu'en fait c'était le premier film de l'histoire du cinéma, d'une certaine manière, en tout cas un film qui marqua beaucoup les esprits et qui, pour un homme qui était déjà célèbre par ses poésies, par ses romans, eh bien qui contribua notamment à accepter à Anna Magnani elle-même, une sorte de mère du cinéma italien des années 50-60, le rôle principal du second film de Pasolini, tourné en 1962, un film intitulé Mama Roma. Et effectivement, Anna Magnani, c'est Mama Roma, une prostituée vieillissante qui va connaître bien des malheurs et bien des désespoirs. La palette de Pasolini a rarement été des plus guirettes, mais en l'espèce, c'est bien entre Acatone et Mama Roma, qui ne sortira sur les écrans français qu'en 1976, aussi incroyable que cela paraisse, puisqu'en 76 et même avant, Pasolini était en France un réalisateur des plus connus. Eh bien, Mama Roma incarne là encore cette version cachée de l'Italie des années 60. Anna Magnani déclarait à la sortie du film que c'était le rôle le plus important qu'elle avait interprété jusqu'à présent. C'était pas très gentil pour Fellini, Rossellini et quelques autres qui avaient largement contribué à sa gloire, mais cela disait assez l'espèce de magnétisme incarné par Pasolini auprès de tous ses collaborateurs. Allez, on écoute un petit extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Carlo Rusticelli sur Divergence FM. Thank you. Voilà, je ne suis pas un spécialiste des danses de salon, mais pour moi c'est un cha-cha. Un extrait de la bande originale de Mamma Roma, une musique de Carlo Rusticelli, même si comme souvent les musiciens de film, eh bien c'est une figure obligée, un cha-cha. Un extrait de la bande originale, donc de Mamma Roma, j'ai déjà dit peut-être. Un film de Pasolini, tourné en 1962, Pasolini auquel nous consacrons cette émission de ce jour. Et on va écouter maintenant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1964 par le dit Pasolini, qui s'appelait « L'Évangile selon saint Matthieu ». Et le titre est déjà programmatique, puisque de fait, il s'agissait d'une évocation de la vie du Christ à partir du texte de « L'Évangile selon saint Matthieu ». Alors, pas d'ambiguïté, Pasolini a toujours été, et il l'a ô combien revendiqué tout au long de son existence, athée et marxiste même, athée et marxiste pur et dur dans les deux cas. Simplement, eh bien, il avait voulu aborder la vie du Christ d'une façon, je dirais peut-être plus révolutionnaire que compassée, et le résultat, ma foi, est plus que bienvenu, certainement l'un des plus beaux films de Pasolini, un film d'une étrangeté, d'une pureté tout à fait éblouissante. L'homme était allé, Pasolini, en Palestine pour faire des repérages pour son film. Il en a d'ailleurs tourné un reportage sur ses repérages qui s'appelle « Enquête en Palestine pour l'Évangile selon saint Matthieu », mais pour des raisons qu'hélas, en 1964 déjà, on pouvait déjà considérer comme évidente, eh bien le film fut tourné pour l'essentiel en Italie du Sud, dans les Pouilles, et quelque part en Calabre. Et là encore, il y a sans doute une intention pour Pasolini d'ancrer cette histoire absolument immortelle dans une réalité géographique différente, d'une part, de là où elle s'est passée, et puis aussi dans une réalité historique, politique, tout à fait contemporaine, réalité historique et politique qui illustre aussi les choix musicaux du cinéaste, puisqu'en fait, la bande originale de l'Évangile Saint-Matthieu, selon Saint-Matthieu, pardonnez-moi, inclut Bach, elle inclut Mozart, elle inclut Prokofiev, elle inclut des chants populaires russes, et puis elle inclut un negro spiritual, en l'espèce Sometimes I Feel Like a Motherless Child, une chanson bien connue qu'en tout cas vous allez reconnaître quand vous allez l'écouter dans quelques secondes, une chanson interprétée en l'espèce par Odetta, et que je vous propose, pour éviter de nouveaux bafouillements, d'écouter sans plus attendre dans 24 notes.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes alone, way, alone.
Voilà, alors évidemment, c'est toujours très triste après une chanson pareille, mais c'était un extrait de la bande originale de l'Évangile selon saint Matthieu, chanté par Odetta. Moi, je ne connais pas, mais il paraît qu'elle est très connue. Un film de Pier Paolo Pasolini, tourné en 1964, dédié au pape Jean XXIII, pour faire bonne mesure, et qui obtint cette année-là tout à la fois le prix spécial de jury au Festival de Venise et, décidément, et le grand prix de l'Office catholique international du cinéma, comme quoi, de temps à autre, eh bien, l'Église sait reconnaître des œuvres spirituelles. C'est le mot qui convient, même venant de cinéastes, et c'est le moins qu'on puisse dire aussi, peut porter quand même sur la hiérarchie ecclésiastique, en l'espèce Pier Paolo Pasolini, auquel nous consacrons cette émission de ce jour. Et on va écouter tout de suite un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1966. Alors j'ai dit tout à l'heure que la palette de Pasolini n'était pas très joyeuse, et peut-être que Uccellacci et Uccellini, en l'espèce en français des oiseaux, petits et gros, des petits oiseaux et des gros oiseaux, ça veut dire en italien, est certainement ce qui se rapproche le plus dans l'œuvre de Pasolini d'une comédie, en l'espèce une sorte de voyage un peu bizarre de deux personnages, alors l'un incarné par l'icône du cinéma comique italien, Toto lui-même, Innocenti Toto, l'autre par un de ces ragazzi di vita, dans Vita, il me semble, dont Pasolini était friand dans ses premiers films, incarné par Ninetto Davoli, deux personnages ô combien opposés qui voyagent avec pour compagnon un corbeau qui parle, un corbeau qui, nous précise les sous-titres, incarne un intellectuel de gauche. Et à la fin du film, bien les deux héros fatigués finissent par tuer et manger le corbeau. Alors, personne n'y verra sans doute une allusion à des événements plus récents, puisque le film est de 66, il est plutôt bienvenu, et puis surtout, il présente une double particularité. D'abord, la bande originale en est signée d'Ennio Morricone, qu'on n'aurait pas forcément vu en compagnie de Pasolini. Et puis surtout, cette bande originale, vous allez pouvoir l'écouter. En fait, c'est le générique de début chanté du film, avec le nom des principaux interprètes, techniciens, etc., etc. Le tout est musicalement assez étonnant. Je vous propose d'en profiter par vous-même. Pasolini et Morricone, quoi de plus italien dans 24 notes secondes.
Thank you.
Ah ben on reconnaît tout à fait la patte de Morricone, un extrait de la bande originale de Des oiseaux, Petits et gros, un film de Pasolini tourné en 1966. Et l'on va très rapidement, puisque l'heure tourne, passer à un autre extrait signé d'Ennio Morricone pour ce qui est certainement, en tout cas à mon sens précis, le chef-d'œuvre de Pasolini, Théorème, un film tourné en 1968 avec Terrence Stamp dans le rôle principal, ô combien charismatique, qui Terrence Stamp, une sorte d'ange plus ou moins maléfique, qui en 1968 à Milan s'insinue dans le foyer d'une famille bourgeoise et finit par en séduire sexuellement tous les membres, y compris, me semble-t-il, un petit animal, mais j'en suis plus certain. Un film qui, à sa sortie, bien connu, un grand succès de scandale, dont un avocat demanda même la saisie des négatifs et la destruction du négatif, vous vous rendez compte, en 1968, sous prétexte, je cite, que, je cite l'avocat, « l'état de grand trouble qu'il avait eu après la vision du film, trouble uniquement sexuel et non pas, comme certains l'ont affirmé, mystique, eh bien, le comte visait à demander la destruction du film, ce à quoi le président du tribunal, rejetant sa demande, dit quant à lui « le bouleversement que m'a causé Théorème n'est nullement sexuel, il est essentiellement idéologique et mystique, comme il s'agit incontestablement d'une œuvre d'art, elle ne peut pas être obscène. » Gardez-le, c'est vraiment de temps en temps, il y a des juges qui, je dirais, honorent leur profession. C'est tout à fait ça. Théorème est une œuvre d'art. Ce n'est pas obscène, certainement. Un des plus grands films des années 70. C'est une cristallisation de l'état d'esprit de ces années-là. Allez, on s'en écoute un extrait. Ennio Morricone lui-même, mesdames et messieurs, un extrait de la bande originale de Théorème. Voilà un extrait de la bande originale de Théorème, de Pasolini et de Morricone. Et alors, vous n'allez pas le croire, il me reste 30 secondes pour évoquer 20 ans de la carrière de Pasolini. Donc autant dire qu'on le fera dans une prochaine émission, une carrière donc, qui se termina ignominieusement quelque part en novembre 1975. Pasolini n'avait que 53 ans. Et en 1969, il avait tourné certainement l'un de ses films les moins connus, mais certainement l'un de ses films les plus autobiographiques. On y retrouvait dans les rôles principaux Pierre Clémenti, Jean-Pierre Léo, Anne Wiazemski, le tout s'appelait Porcherie. C'était vraiment bizarre, il faut le reconnaître. Je vais vous quitter là-dessus. La musique en était signée de Benedetto Giglia. Comme c'est de la harpe, je ne veux pas risquer de la troubler. Donc je vous dis dès maintenant, au revoir, à bientôt. Ciao, arrivederci.